Maboula Soumaoro, je vous propose qu'on commence tout simplement.
Oui,
je ne sais pas exactement ce qu'on va faire, mais je voudrais donner aux personnes qui sont ici le goût de lire votre livre et peut-être amener à ce qu'ils vous connaissent un peu mieux.
D'accord.
Je ne sais pas, peut-être que vous connaissez déjà Maboula Soumaoro et son travail, peut-être que vous avez déjà lu le livre dont on a parlé la dernière fois. Vous me permettez de vous présenter très très sommairement?
Oui, je vous en prie.
D'accord. Donc, Maboula Soumaoro, vous êtes docteur en civilisation du monde anglophone, vous êtes spécialiste des études africaines américaines, spécialiste des diasporas noires africaines, vous êtes maîtresse de conférences à l'université de Tours. Merci pour le limonadier.
J'étais désespérée.
C'est un peu cruel. Ouais,
j'allais pas pouvoir me concentrer.
Qu'il ne faut pas ouvrir. Vous êtes donc dans le département, j'ai retenu par cœur, langue et histoire anglophone et anglo-saxonne. Voilà, pour être très factuel, vous êtes aussi, peut-on dire, un personnage médiatique. Vous êtes souvent présente dans les plateaux de télévision, vous êtes souvent confrontée, on vous convoque souvent sur des questions politiques, sur les questions du racisme et d'autres questions, l'afroféministe aussi, pour lequel que vous défendez. Je me souviens de vous, vous êtes souvent confronté, j'ai presque envie de dire, plutôt à des contradicteurs qu'à des interlocuteurs, très souvent. Ouais. Et la première fois que je vous ai vu, je crois, à la télévision, vous manifestiez un calme, je trouvais incroyable, devant l'agressivité, notamment d'une personne qui était en face de vous. Et voilà, vous faisiez preuve d'un grand calme, mais aussi de beaucoup d'humour. Et donc, cela m'a invité à en connaître un peu plus sur vous. Quand j'ai vu que votre livre sortait, je l'ai lu. Il est publié, comme vous voyez, à La Découverte, et je ne sais pas si vous connaissez ces éditions, mais on a plutôt l'habitude de trouver des essais et des ouvrages scientifiques. Pour moi, votre livre est un ouvrage scientifique, mais c'est aussi un ouvrage très, très personnel. C'est un mix remarquable entre, on va dire, deux genres, la littérature très personnelle et l'ouvrage scientifique. C'est un peu, pour moi, la singularité de ce livre et la force de ce livre. Mais je vous ai aussi demandé de venir, et vous avez bien voulu venir, parce que ce soir, c'est la création du Lynch, d'Eva Dombia. Donc c'est une première, hein. On aura l'occasion de découvrir son travail ce soir. Bonsoir, installez-vous, je vous en prie. Il y a des points communs entre la pièce d'Eva Dombia, le Lynch, et votre livre. Il y a bien sûr le thème, parce que toutes les deux, vous parlez du racisme. Vous parlez d'actualité, d'événements qui se passent aujourd'hui, mais vous associez aussi ce racisme d'aujourd'hui à des causes anciennes, des causes historiques. Très rapidement sur le Lynch. Le Lynch, c'est l'histoire d'une famille française, noire, qui s'installe, qui achète une maison et qui s'installe. Et ces deux générations, c'est des enfants nés en France, mais des parents nés en Côte d'Ivoire. Et il y a un tiraillement dans cette famille, au sein de cette famille. L'histoire joue déjà entre deux continents. Le continent européen, la France, où sont nés les enfants. Le continent africain, avec la Côte d'Ivoire. Et les enfants se rêvent, se sentent... Bonsoir. Installe-toi, Irène. Bonsoir, Miguel. Installez-vous. Trouvez une petite place. Oui, le tiraillement dans cette famille que raconte Eva... qui est une œuvre de fiction, hein. Bon, elle s'inspire de choses très réelles, mais c'est une œuvre de fiction, vient surtout d'enfants qui se rêvent, qui sont français, qui se sentent français, ils appartiennent à ce pays parce qu'ils y sont nés, mais on leur renvoie sans arrêt à une histoire qu'ils connaissent en tout cas moins que leurs parents, qui est celle de leurs parents, celle de là où ils sont nés, parce qu'ils ont la peau noire. On a donc deux continents, un tiraillement entre deux continents. Dans votre livre, Maboula Soumaoro, il y a un troisième continent. Là, j'ai déjà trop parlé, je voudrais vous laisser la parole.
Voilà. Déjà, bonsoir, bonjour, je ne sais pas ce qu'on doit dire à cette heure-ci. Bonjour, bonsoir. Voilà, merci de me recevoir et merci Renan pour l'invitation, merci au CDN. Concernant la dernière remarque de Renan, effectivement, dans mon ouvrage, il y a un troisième continent qui apparaît et ce sont les Amériques. Puisqu'il se trouve que j'ai passé près d'une décennie principalement aux États-Unis, principalement à New York, mais le fait de vivre si longtemps aux États-Unis m'a permis de découvrir le reste du continent. Donc j'ai aussi voyagé en Amérique du Sud, plus dernièrement, mais vraiment au début des années 2000 quand j'y étais, c'est vraiment la Caraïbe que j'ai découverte, mm-hmm. et la Caraïbe anglophone. Mm-hmm. Donc de ce fait, il y a un troisième continent qui apparaît dans ma propre trajectoire, puisque mes parents sont issus de la Côte d'Ivoire, ont migré en France dans les années 60. Moi, je suis née en France, à Paris, et moi-même, j'ai migré plus tard temporairement dans cette partie du monde qu'on a appelée les Amériques. Et donc, c'est seulement bien des années plus tard, et c'est ce qui a contribué à la rédaction de ce livre, que je me suis aperçue de ma propre trajectoire à travers ce triangle, donc le triangle transatlantique, qui est un espace géographique, mais également un espace historique, politique, culturel, qui a lié de manière inédite, de manière violente, de manière pérenne, ces trois continents que nous venons de mentionner, c'est-à-dire le continent africain, le continent européen et ces Amériques-là. Mais ça, c'est devenu conscient bien plus tard dans mon esprit. Avant, j'étais amoureuse de New York, je voulais aller à New York. Ensuite, j'étais amoureuse de la Jamaïque, je voulais aller à la Jamaïque. J'étais amoureuse du Brésil, je voulais aller au Brésil. Et voilà, mais c'est aujourd'hui que j'ai été capable, peut-être, ou que j'ai été en mesure de mener une réflexion qui était en lien avec mes sujets de recherche. Donc, comme Renan l'a dit, je suis spécialiste de ce qu'on appelle la diaspora africaine, la diaspora noire africaine. Mais avant cette spécialisation, moi, j'ai été formée comme angliciste. Donc, j'ai fait des études d'anglais après le baccalauréat. Jusqu'au doctorat, et c'est seulement à partir donc de la maîtrise, là ça va être un indicateur d'âge, puisque maintenant ça s'appelle plus la maîtrise mais le master.
Oui.
Voilà, donc je fais partie de cette génération qui a eu une maîtrise. Donc,
et un DEA.
Et un DEA, exactement, master 1, master 2. Donc à l'époque de la maîtrise, c'était le moment où, au cours du cursus de formation d'anglais, on devait choisir une spécialisation, et moi j'avais choisi la spécialisation civilisation. Ce qui veut dire l'histoire de la culture, et donc civilisation du monde anglophone, avec un peu de civilisation britannique et surtout beaucoup de civilisation états-unienne. Et au sein de cette spécialité, j'avais choisi de m'intéresser particulièrement à la communauté africaine-américaine. Et une fois que j'ai commencé cette démarche de recherche au sein de la communauté africaine-américaine, ce qui a correspondu au moment où je commençais à aller régulièrement aux États-Unis, j'ai commencé à aller étudier aux États-Unis, plus tard à y vivre et à y enseigner, je me suis aperçu que, en fait, la communauté africaine-américaine, elle n'était pas si simple, elle n'était pas, enfin, surtout à New York. Il n'y avait pas que des Noirs des États-Unis. À New York, il y avait des Noirs qui venaient du continent africain. Il y avait des Noirs qui venaient d'Europe. Il y avait des Noirs qui venaient de toute la Caraïbe, qu'elles soient anglophones, hispaniophones, ou d'Amérique centrale et d'Amérique latine. Et donc voilà, c'est à partir de ce moment-là que je me suis intéressée à ce qu'on appelle la diaspora, c'est-à-dire les populations d'ascendance africaine, proches ou lointaines, qui ne se trouvent pas sur le continent africain. Donc moi, je ne suis pas du tout africaniste, je ne suis pas spécialiste du continent africain, mais je m'intéresse aux populations d'origine africaine qui vivent en dehors du continent, dans le monde atlantique, et vraiment avec pour point de départ la traite négrière transatlantique et l'esclavage, qui ont été des centres d'intérêt pour moi, mais qui au départ ne m'incluaient pas. C'est-à-dire que je m'intéressais aux Amériques, voilà, par goût, mais pas parce que j'y voyais une projection de moi-même, puisque moi-même je venais d'Afrique et de Côte d'Ivoire, et j'avais une généalogie très claire par le biais de mes parents. Et c'est en avançant, en cheminant, en étudiant, en explorant toutes ces thématiques, que je me suis aperçu que moi-même je faisais partie de cette diaspora, simplement que j'avais intégré ce mouvement, cette dispersion, à un autre moment de l'histoire. Donc mon histoire n'est pas celle des Noirs des Amériques, mais mon histoire est quand même en conversation avec la France et avec cette France hexagonale au sein de laquelle je suis née. Donc ça a vraiment été un long cheminement. Donc aujourd'hui, je m'intéresse vraiment un peu plus au-delà du monde anglophone. Je m'intéresse à tous les mondes noirs, et je m'intéresse de plus en plus à ce qu'on appelle donc Afropéa, pour citer le dernier ouvrage de Leonora Miano, pardon, c'est-à-dire les personnes d'ascendance africaine qui sont natives, qui sont indigènes de l'Europe. Pas seulement cette présence africaine par le biais de l'immigration, mais par le biais de l'ancrage, peut-être récent, mais en tout cas un ancrage bien réel de ces personnes en terre européenne dont la France fait partie. Même si la France fait partie d'autres espaces, puisque si on parle des territoires qu'on appelle les territoires d'outre-mer, on a entendu parler tout récemment de la Nouvelle-Calédonie, par exemple, avec le référendum qui vient d'avoir lieu. Et donc, j'ai juste constaté que depuis cette France hexagonale, depuis cette France européenne, on avait parfois du mal à comprendre la présence de la nation française dans d'autres espaces géographiques. Et cette présence française dans ces autres espaces géographiques, que ce soit l'océan Atlantique, la mer des Caraïbes, l'océan Indien ou l'océan Pacifique, cette présence-là, éparpillée, étalée, nous renvoie à une histoire. Donc c'est vrai que par rapport à ce que vous avez dit dans votre introduction, et dans votre description de la pièce de théâtre d'Eva Doumbia, Le Yinche, que j'ai pu lire juste avant de venir, il y a cette question de la place du politique, de l'historique, mais dans l'intime. C'est pas seulement ça ne peut pas seulement, à mes yeux, se limiter à de grandes questions, à de grandes recherches. Toutes ces questions, toutes ces interrogations, même ces migrations qui sont très concrètes, ont des effets sur des êtres humains qui les vivent. Et donc, la question, c'est comment raconter cette histoire tout en racontant ces histoires. Voilà, donc c'est ça la démarche.
Merci beaucoup pour cette explication très, très, très globale et très, 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 très précise du propos de votre livre. L'émergence de ce troisième continent, les États-Unis où vous allez habiter pendant une dizaine d'années, où vous étudiez, où vous formez Maboula Soumaoro, c'est le moment, vous me corrigez si je dis une bêtise, et comme ça permettra de mieux comprendre, c'est le moment où vous rattachez, où vous comprenez vous-même dans cette diaspora, parce que vous rattachez aussi à une histoire ancienne, qui est d'il y a plusieurs siècles, qui est celle de la traite négrière, de l'esclavage.
Oui.
C'est cela ?
Oui, c'est... Alors au départ, il y a cette centralité, vous avez raison, cette centralité de l'histoire de la traite négrière et de l'esclavage, donc à partir, pour rester schématique, de l'arrivée de Christophe Colomb dans les Amériques, la colonisation européenne, toute l'émergence de nouvelles sociétés qui vont, à travers les siècles, obtenir leur propre indépendance, que ce soit les États-Unis, que ce soit le Brésil à un moment, que ce soit, je ne vais pas dire la Caraïbe anglophone parce que c'est une autre histoire compliquée, mais par exemple des républiques d'Amérique latine qui acquièrent leur indépendance dans les années 1820. Voilà. Donc cette question de la traite négrière, elle est centrale puisque c'est elle qui produit cette diaspora qui m'intéresse et c'est elle surtout qui fabrique les identités raciales qui sont celles qui continuent, parce que moi je dirais, j'assume ce que je vais dire, qui continuent de nous travailler, de nous perturber, ou en tout cas de structurer les sociétés dans lesquelles on se trouve aujourd'hui encore. Donc se définir comme noir, se définir comme blanc, et toutes les identités qui se trouvent au milieu entre ces deux extrêmes, ça vient d'un moment précis de l'histoire. Donc moi quand je me retrouve dans les Amériques, je me retrouve noire, perçue comme noire, comprise comme noire. Je me retrouve aussi perçue comme française, ce qui ne m'était jamais arrivé, puisque en France, en France hexagonale, j'avais été perçue comme noire ou black ou africaine ou ivoirienne ou à la rigueur musulmane pour ceux qui s'intéressaient un peu plus intimement à la réalité de mon vécu.
Oui, vous le racontez très très bien ça, les préjugés que vous subissez en permanence et le lien, je parle de la violence policière beaucoup, des préjugés. Liés à la police, liés aux administrations. Vous parlez-vous des préjugés aussi, plutôt Maboula Soumaoro, des préjugés de l'élite que vous rencontrez, par exemple les chercheurs avec qui vous travaillez?
Oui, quand j'arrive dans le monde de la recherche, moi c'est pas mon monde. Moi je viens d'un milieu extrêmement modeste, enfin précaire, très 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 pauvre, et dans ce milieu-là, et qui est aussi né de l'immigration, l'école est le seul espoir d'élévation sociale. S'il n'y a pas de diplôme, y a pas d'avenir, il n'y aura pas d'argent, il n'y aura pas de travail. Et donc, il y a vraiment un investissement qui n'était pas unique à ma famille, mais un investissement très important dans cette élévation sociale qui ne pouvait faire autre chose que passer par l'école, puisqu'on avait les moyens de rien. Ce qui veut dire que moi, quand j'entame des études supérieures, je ne suis pas la seule de ma famille. Je viens d'une famille nombreuse, on est 7, et tout le monde a fait des études supérieures. Et moi, dans les 7, je suis l'avant-dernière. Donc j'ai des frères et sœurs qui, avant moi, ont eu le baccalauréat, ont été à l'université, enfin voilà. Mais en tout cas, je suis la seule de ma famille à avoir obtenu un doctorat. Et je suis la seule à être enseignante chercheuse, donc en poste à l'université. Ce qui veut dire que si je prends le cas de ma mère qui toute sa vie a été payée au SMIC, vraiment socialement, je ne vis pas du tout de la même façon. Je ne suis pas mère seule avec 7 enfants immigrés dans un pays inconnu dont elle a fini par acquérir la langue. Mais en tout cas, voilà, j'ai un style de vie, un mode de vie qui est socio-professionnel, qui n'a rien à voir ni avec ma mère, mais ni avec les autres membres de ma famille qui ont réussi leur vie à différents niveaux, mais qui voyagent moins que moi, qui ont bien moins de loisirs que moi, qui ont des accès à la culture bien moins importants que les miens. Enfin, voilà. Donc moi, quand j'arrive dans le monde de la recherche, c'était une petite introduction, ça veut dire que j'arrive dans un monde qui n'est pas le mien, qui n'est pas le mien socialement. Qui n'est pas le mien, on va dire, racialement non plus, parce que c'est vraiment des espaces où on trouve pas beaucoup de ce qu'on appelle les populations de couleur. Ça, on le voit, je veux dire, si moi j'ai fait le début de mes études donc dans une université de banlieue à Créteil, on va dire que jusqu'à la licence, il y avait pas mal de non-blancs. Mais plus on monte et moins il y en avait. À la maîtrise, DEA, au doctorat, il y en a moins. Et même là, dans mes collègues, il y en a très peu. Moi, j'enseigne dans un département où je suis la seule femme noire. Et dans l'université, il y a d'autres personnes noires, par exemple. Mais je remarque que ce sont des personnes qui viennent d'Afrique. Oui. Ce sont des étrangers qui sont venus faire carrière ici. Mais des jeunes personnes non blanches, nées en France hexagonale, je trouve ça plus rare. Donc quand j'arrive moi dans ces espaces-là, ben, évidemment, je me prends tous les préjugés, toutes les idées préconçues, toutes les projections qu'on a donc sur l'Afrique, sur l'immigration, sur la banlieue, sur les musulmans, et tout ça, ça s'ajoute ou ça s'imbrique avec ce qu'on avait déjà sur les femmes, sur les donc ça.
Qui viennent de personnes. Avec lesquels vous collaborez, oui. Vous parlez de votre directrice de thèse, je crois,
oui.
Qui sort des choses un peu aberrantes devant vos projets, qui ne les comprend pas.
Oui.
Et ce qui est étonnant, c'est on s'interroge sur le rapport à l'intelligence. Mm. C'est-à-dire que, et en même temps, c'est rassurant, on se dit, bon, finalement, une part de la bêtise n'est pas... finalement, s'il y a un universel, c'est peut-être dans la bêtise.
Je pense que c'est une remarque intéressante parce que ça nous pousse à réfléchir à nos propres définitions du racisme. J'ai l'impression que souvent, dans les définitions que j'entends, j'entends souvent des définitions qui m'ont l'air très simplistes, très naïves, et qui font la part belle justement à ces questions d'ignorance ou de bêtises. Mais à mes yeux, pour avoir étudié le sujet, c'est pas tellement ça le racisme. Parce que, partir de ce questionnement, de cette limitation à l'ignorance ou à la bêtise, ben, ça laisse de côté toute la pensée, toute la recherche qui ont été racistes et qui ont été produites par les élites, et notamment les élites universitaires ou scientifiques. C'est-à-dire que quand on mesure les crânes des populations indigènes de je ne sais quel endroit du monde, depuis la France hexagonale, qu'on stocke des corps, des cerveaux, des choses au Musée de l'Homme, au Trocadéro, quand on publie des traités anthropologiques, ethnographiques, enfin voilà, qui hiérarchisent, de manière scientifique, très acceptée, disséminé à travers toutes les institutions de savoir, là c'est un racisme qui a été produit par les hautes sphères. Et ce racisme, il existe tout comme il peut exister dans des sphères, on va dire, moins élevées sociales, où on va dire, oh, c'est parce que la personne n'a pas lu ci ou n'a pas accès à la culture, et c'est pour ça qu'elle est raciste. Non, on peut être raciste pour plein de raisons différentes. Donc quand je me retrouve à l'université et que j'ai à faire face à ce genre de remarques qui sont d'une banalité, je veux dire d'une banalité que certaines personnes ont du mal à entrevoir d'ailleurs. Au départ, je suis étonnée, je suis heurtée, mais très vite, je m'y habitue. Très vite, je m'y habitue et très vite, la question est de savoir comment je vais pouvoir négocier ces entraves, comment je vais pouvoir négocier ces remarques pour arriver à mon but qui était d'écrire ma thèse de doctorat sur le sujet que j'avais décidé. Puisque les sujets sont aussi hiérarchisés et généralement, quand un groupe, une communauté est marginalisée et mal considérée, bah, il est même logique que ce groupe ne soit pas étudié. Donc si je m'intéresse aux Noirs, il va falloir que, alors déjà c'est ça peut être problématique, il va falloir que je m'intéresse et que j'étudie certains Noirs. Et d'autres, donc les Noirs qui m'intéressent, moi en l'occurrence, c'était donc la Nation d'Islam aux États-Unis, le mouvement Rastafari à Jamaïque. Et bien là, on m'explique que ce sont des Noirs qui ne comptent pas, qui ne sont pas dignes d'intérêt scientifique. Mmh. Voilà, c'est ça, mais ils ne sont pas dignes d'intérêt scientifique pour des raisons qui sont très logiques historiquement.
Il y a un moment, on a l'impression dans le livre, et j'ouvre une parenthèse aussi, parce que sur l'écriture... il y a un souffle dans ce livre qui est remarquable. Et il y a des passages qu'on aimerait pouvoir... je ne sais pas si ça vous a traversé l'esprit quand vous écriviez Ma Blesse Moro, mais il y a des passages qu'on aimerait entendre dit à haute voix, ou peut-être, pourquoi pas, sur une scène de théâtre.
J'y ai pensé.
Ce que j'ai aussi noté, c'est que dans tout scientifique et savant qu'il est, ce livre, et il va aussi chercher, et j'imagine que ce n'est pas innocent, ses références et ses points d'appui dans le rap, dans le rap français, dans le rap anglo-saxon. Et je trouve qu'il y a par moments dans votre écriture aussi un sens de la punchline et un sens du souffle qu'on retrouve aussi finalement dans votre écriture. Néanmoins, sur le plan scientifique, j'ai l'impression, vous me corrigerez encore une fois aussi si je dis des bêtises, il y a presque une sorte de mini-révolution épistémologique dans votre parti pris. C'est-à-dire que vous dites « l'universalisme n'existe pas », et c'est la scientifique chercheuse que vous êtes qui dit ça.
Ouais.
Et donc, vous voulez peut-être réagir à ça. Enfin, c'est-à-dire que c'est souvent la manière qu'on a de tacler les personnes, c'est si vous dites que l'universel n'existe pas, tout est relatif, il n'y a plus de discussion rationnelle possible. Mm-hmm. Comment on peut être une chercheuse, donc aussi s'inscrire, vous me corrigerez aussi, Magdalena Soumaoro, dans le champ de la raison, parce que ce que vous maniez, c'est des concepts, ce que vous maniez, c'est des lectures, des choses savantes. Comment on se tient encore dans le champ de la raison pour l'universitaire que vous êtes, tout en disant l'universalisme n'existe pas.
Alors, je vous remercie pour ces questions, Renan, parce que c'est vraiment... là est toute la différence entre les milieux hostiles que vous avez décrits tout à l'heure dans la sphère médiatique, où on est là pour se battre ou pour faire entendre au moins une sorte de point de vue, alors que là, dans les questions que vous me posez, on peut vraiment discuter et on peut vraiment réfléchir. Donc merci pour ce moment agréable, agréable au moins. Les points que vous avez soulevés, ils sont complexes et je pense que la réponse va être longue. En fait, donc ce livre est paru au début de cette année, il est sorti au mois de février. J'ai fini de le rédiger peut-être au mois de juillet 2019. Et en fait, j'ai commencé à travailler ce livre à partir de 2013. C'est à partir de 2013 que j'ai commencé à faire des présentations universitaires dans le cadre universitaire, souvent, toujours d'ailleurs à l'étranger, où je commence à parler d'hexagones, de triangles, et je commence à explorer ces idées, mais d'une façon très très scientifique, très très distante. Qu'est-ce que c'est que la diaspora? Enfin, ce que je travaillais déjà, mais je commence un peu à m'autoriser, à me poser des questions un peu plus personnelles. En gros, qu'est-ce que c'est que la diaspora scientifiquement au niveau de la théorie? Et ensuite, toi, qui es-tu au sein de cette diaspora? Ta vie, qu'est-ce que c'est? Ou qu'est-ce qui peut-être justifie ou initie, démarre tous ces intérêts. Pourquoi tu aimes les pays noirs? Pourquoi tu aimes bien voyager dans tel ou tel endroit? Pourquoi tu fais attention, je ne sais pas, tu es plus sensible à telle ou à telle, comment dire, je sais pas, musique, cuisine, pourquoi ça t'intéresse autant? Et donc à partir de 2013, je commence à faire plusieurs interventions autour de cette thématique, mais tout d'abord, comme je l'ai dit, de manière très très scientifique. Et ensuite, je repars une nouvelle fois aux États-Unis pour une longue période, pendant un an, en 2016-2017. Et là, je commence à travailler un texte qui va devenir le livre. Mais ce texte, je le rédige en anglais. Et pendant toute l'année universitaire, je fais au moins 5 ou 6 présentations dans des universités différentes. Et je le présente toujours en anglais et il est écrit en anglais. Donc quand je rentre en France en 2017 et que la maison d'édition, La Découverte, me contacte et me demande un texte, je suis capable de leur dire « Oui, j'ai un texte qui m'intéresse, j'ai l'impression de vouloir écrire différemment, j'ai l'impression d'avoir un peu pris des distances par rapport à, on va dire, à la rédaction universitaire académique pure et dure. Il y a quelque chose qui m'ennuie, il y a quelque chose que je trouve très froid et qui ne m'attire plus. C'est-à-dire que je n'ai plus envie de faire cet effort qui avait été l'effort fait pour le doctorat, qui avait été l'effort fait pour tous les articles de recherche ou les colloques. Enfin voilà, il y avait une sorte de façon d'être face au savoir qui ne m'intéresse plus. J'ai envie de me dévoiler, ou j'ai envie de parler de moi, ou j'ai envie de rentrer dans l'intimité.
Est-ce que vous vous sentiez à ce moment-là, même sur le au point de vue scientifique et de la recherche, limité, si vous n'alliez pas au-delà de l'objectivité de votre sujet d'étude?
Alors en fait, c'est de la limitation dans peut-être l'expression, c'est-à-dire de quand on parle de ces choses-là, si on parle de grands concepts, la domination, l'oppression, la marginalisation, les classes sociales, la race, le racisme, si on se lance dans des études sociologiques, si on utilise des statistiques, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce que ça
c'est
veut
désincarné.
Dire c'est désincarné. C'est désincarné, et qu'est-ce que ça veut dire quand on est soi-même en marge de ces cercles de réflexion, qu'on y est parvenu, mais qu'on a toujours l'impression de ne pas en faire vraiment partie, de côtoyer des gens qui n'ont pas le même style de vie, c'est-à-dire qu'il y a un style de vie auquel vous avez eu accès, mais vous avez aussi accès en parallèle à des personnes qui vivent comme vous avez vécu avant. Et pour lesquels, par exemple, vous pouvez côtoyer des collègues qui vont vous dire « Je suis partie dans une banlieue difficile, j'ai établi des contacts avec des habitants de tel quartier, j'ai mené des enquêtes », ce qui est très intéressant et très important. Mais moi, la banlieue, c'est ma vie. C'est pas, je veux dire, je ne note pas à chaque fois le pire. Enfin, je veux dire, j'y vis encore aujourd'hui dans des conditions différentes, mais en tout cas, je vis techniquement en banlieue. J'ai grandi en banlieue et ce n'est pas un fait d'armes pour moi de parler à des banlieusards, ou de parler à des noirs, ou de parler à des musulmans, ou de parler à des pauvres. Donc qu'est-ce que je fais de ça? Ça ne veut pas dire que je rejette toutes les autres façons de faire de la recherche. Je dis juste que j'ai envie de rentrer davantage en adéquation avec des accès que j'ai, avec un point de vue qui peut être différent, et de l'assumer en fait. Et c'est le point où je voulais, c'est là où je voulais arriver. C'est-à-dire que quand je commence à écrire ce livre, je n'arrive pas à l'écrire en français, par exemple. Je l'ai commencé aux États-Unis, je l'ai commencé en anglais, et quand je propose à La Découverte le début du texte, on me répond « Oui, c'est très bien, c'est intéressant, mais il faut que tu l'écrives en anglais ». Enfin non, pardon, le lapsus.
Le livre commence, était déjà un jeu. Il y avait déjà un jeu.
Il y avait déjà un jeu. Et on me dit, il faut que tu l'écrives en français. Et je n'y arrive pas. Ça me prend du temps. Je n'y arrive pas. Je comprends pas. Je me dis, mais je vais pas me. Alors, je peux me traduire moi-même. Je suis bilingue. Enfin, c'est ridicule. Je vais pas traduire un. Enfin, ou chercher un traducteur ou une traductrice. Il faut que je trouve ma voix en français. Et en fait, ce qui m'a débloqué, c'est une discussion avec mon premier éditeur, qui m'a dit, écoute, essaie d'écrire sur le fait que tu ne parviennes pas à écrire en français. Et c'est ce qui m'a débloqué, c'est ce qui est devenu l'introduction. Et donc, ce qui est ressorti, c'est l'impossibilité de parler ouvertement de certaines choses en France, et en France hexagonale, et en français. Et donc, mes revenus, tout ce que j'avais appris, donc notamment aux États-Unis, et souvent on m'accuse d'avoir été formée aux États-Unis, mais c'est une vision très, très stupide des États-Unis, parce qu'en vérité, dans les universités états-uniennes, on trouve le monde entier. C'est pas seulement des Américains qui m'ont formé. Il y avait des Britanniques, il y avait des gens de la Jamaïque, il y avait des gens donc des États-Unis évidemment, il y avait des gens d'Afrique, il y avait aussi des Européens, il y avait notamment des Français. Il y avait notamment Édouard Glissant et Marie Scondé qui sont Français. Et eux aussi m'ont formé. Donc souvent quand on me dit « oui, vous avez une formation américaine », oui, enfin, c'est une façon de voir les choses. Donc voilà, en tout cas quand j'ai commencé à réfléchir à cette impossibilité de dire en français et cette impossibilité de me dire en français, enfin une fois que j'ai compris la tension, l'enjeu, c'est ça qui a débloqué, c'est ça qui m'a autorisé à écrire ce livre qui, je pense, n'aurait pas pu, enfin que je n'aurais pas pu écrire 20 ans auparavant. Je veux dire que 20 ans auparavant, quand j'étais à la recherche donc de ma maîtrise, de mon DEA, de mon doctorat, j'avais besoin d'avoir peut-être accès à cette légitimité qu'apportait l'aspect scientifique. Il faut le diplôme. Si vous dites, si vous voulez raconter certaines histoires, si vous voulez faire certaines démonstrations, ben justement, il faut être hyper rationnel, il faut être classique, il faut être scientifique, et on va vous octroyer tel titre qui maintenant va vous donner accès à l'enseignement à l'université, à l'espace public, notamment par les médias. Si vous n'avez pas de diplôme, vous n'y avez pas le droit.
Vous êtes reconnu par ses pairs.
Oui, être reconnu par ses pairs et avancer. De toute façon, ça m'a. Et ensuite, peut-être que justement, ça a été une forme d'embourgeoisement. Une fois que j'ai eu tous ces diplômes, tous ces titres et ces autorisations, je me suis dit, ben maintenant je vais faire ce que je veux. Je vais faire ce que je veux. Et je fais ce que je veux dans la forme et dans le fond. C'est-à-dire que le fond, je le maîtrise et on ne pourra rien me dire sur la diaspora, sur la théorie. Voilà, c'est un parti pris, par exemple, de mettre très peu de notes de bas de page dans ce livre. Je cite beaucoup de personnes, je fais des analyses et je me dis que les personnes qui sont intéressées, des personnes qui pourraient être mes collègues, peuvent facilement faire des recherches autour des événements, des personnes ou des ouvrages ou des articles que je cite. Et puis les personnes qui ne sont pas spécialistes de la question ou qui n'ont pas ce niveau d'études, ben elles ne seront pas entravées par l'aspect que peut revêtir un livre qui a l'air très sérieux et qui n'est pas pour moi. Donc plusieurs personnes pourront le lire de plusieurs façons différentes et moi c'est ce qui m'intéresse parce que je trouve que de toute façon l'une des caractéristiques du monde scientifique c'est son élitisme et plus c'est obscur, moins c'est accessible, plus ça a de la valeur. Il faut que ça soit incompréhensible. Il faut que ça soit bon. Ah ben oui, c'est ça. C'est une démonstration de force et d'intelligence. Mais moi, l'intelligence, le pouvoir, et l'intelligence, si elle n'est pas traduite, c'est pour ça que la traduction m'intéresse autant. Si elle ne. Je sais pas, si elle n'est pas distribuée, si elle n'est pas accessible au plus grand nombre, à quoi ça sert? Justement, si on réfléchit en plus sur des problématiques qui nous secouent, qui produisent les effets qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce qu'on veut régler des choses ou est-ce qu'on veut juste réfléchir? Moi, j'aime réfléchir, mais j'aimerais aussi que les choses soient différentes, que la situation soit différente. Donc, voilà, c'est un parti pris pour moi de dire, je vais parler de ceci ou de cela, mais je ne mets pas de bibliographie, je ne mets pas... Mais vous avez les noms des auteurs, vous avez les événements qui sont décrits, puis si ça vous intéresse, bah, allez faire des recherches. C'est aussi la... Peut-être, je ne sais pas si c'est une forme d'arrogance, mais de me dire aussi, je ne vais pas tout vous donner comme ça. Je ne vais pas tout vous donner, oui. Il va falloir aussi travailler
oui,
un peu.
Oui. Internet est ton ami.
Voilà, il va falloir travailler un peu, parce que j'ai beaucoup travaillé, et que, voilà, c'est pas... Non, il faut se creuser la tête un peu, c'est pas... Il faut accepter la difficulté aussi. Il faut accepter la complexité et il faut accepter cette démarche, aller vers. Voilà, et pas se dire tant que je ne connais pas, ça n'existe pas. Parce que je n'en ai jamais entendu parler, ça ne compte pas. Tant que ça ne tombe pas au sujet du brevet des collèges, du baccalauréat, des examens universitaires ou des concours, c'est-à-dire tous ces savoirs valorisés, parce que c'est là qu'on montre la valeur que l'on octroie au savoir. Tous les savoirs qui vont vous garantir un accès à. Et il y a des savoirs qui ne comptent pas. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'existent pas? Moi, je sais que pourtant, je veux dire, j'ai eu le temps d'aller à l'école de la maternelle jusqu'au doctorat. Je sais que ça ne m'a jamais rien coûté, de savoir très peu de choses sur le continent asiatique, si ce n'est, par exemple, la Chine, le Japon, peut-être la Corée du Sud, un peu, et l'Inde. Mais le reste, je sais pas ce qui se passe, je sais pas. Ça ne m'a rien coûté, académiquement, de ne pas connaître grand-chose du continent africain. Si ce n'est, peut-être l'Algérie, l'Afrique du Sud, un peu. Voilà, ça ne m'a rien coûté. Ça ne m'a rien coûté de ne rien connaître au Costa Rica. Donc ça veut dire que ce sont des sujets qui ne comptent pas. Et pourtant, ces gens existent, ces pays, ces lieux, ces populations, ces cultures existent. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? Donc c'est pour ça que je dis que, en tout cas, le livre, je ne me serais jamais autorisé à l'écrire sous cette forme au moment où j'avais besoin de cette légitimité. Voilà. Aujourd'hui, peut-être, voilà, c'est pour ça que je parlais d'une forme d'embourgeoisement spécifique. Maintenant, je me dis, bon, je crois que personne ne va me retirer mes diplômes. J'ai un poste à l'université, je sais qu'il faut vraiment, je sais pas, je me dirais, tuer au moins 50 étudiants pour être viré de l'université et d'être déchu de son statut de fonctionnaire. Donc maintenant, je fais ce que je veux, j'écris comme je veux.
Est-ce qu'il y a des questions?
Oui, par rapport à la question que tu as posée tout à l'heure sur... je suis fatiguée, je l'ai dit. L'universalisme, une certaine universalité.
Oui.
Vous avez écrit votre livre avant tous les événements, George Floyd et compagnie.
Oui.
Est-ce que justement ce fait de dire que l'universalisme n'existe pas, est-ce que justement toutes les histoires... qui se passe aux États-Unis et qui rebondissent chez nous, est-ce que justement elle ne montre pas que bah, l'universalisme dont on a rêvé avec le siècle des Lumières et compagnie, il n'existe pas dans les faits, quoi.
Il n'existe pas. Je ne sais pas ce qu'il y a de si problématique à déclarer cela, mais vous avez raison de pointer. L'actualité, enfin toute la séquence qui a commencé depuis la fin du printemps de cette année, qui n'est, alors ça dépend des points de vue, mais qui n'est absolument pas, qui peut ne pas être surprenante en fait. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont dire « Ah oui, mais effectivement, ça colle à l'actualité, mais 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, enfin 2015, 2014, 1900, 1800, 1600, enfin on peut remonter à loin. » Et là, il se trouve qu'on s'est retrouvé dans une configuration qu'on pourrait dire un peu magique qui a fait qu'il y a eu une explosion qui a rendu certains sujets inévitables. Mais ces sujets existent depuis. Donc la question de l'universalisme, puisque apparemment il est... je ne sais pas, impossible, ou enfin, il ne faudrait pas dire ça. Quand je dis que l'universalisme n'existe pas, je ne dis pas qu'il ne devrait pas exister. Je dis simplement qu'on ne peut pas se cacher derrière une théorie et derrière un idéal qui est magnifique pour masquer des réalités et donc une pratique qui est complètement contraire à ce qui est prôné. On peut pas. Enfin, je veux dire, on ne peut pas et on pourra de moins en moins. Donc, évidemment, on peut parler de cette séquence 2020, mais comme je l'ai dit, on peut remonter à des décennies en arrière, des siècles en arrière. Enfin, toute cette histoire, enfin, tous ces événements s'inscrivent dans une histoire très, très précise qui est méconnue, mal connue, ignorée. Enfin, voilà. Donc, l'universalisme, il n'existe pas, c'est pas un scoop. Pour certains et certaines, c'est pas un scoop. Pour d'autres, c'est la découverte du siècle. Bon, ben, je pense que tant qu'on ne sera pas justement d'accord et tant qu'on ne sera pas capable de s'entendre les uns les autres, de toute façon, il y aura un problème. Il ne s'agit pas seulement de se dire, moi, je ne suis pas du tout coincée dans une posture qui dirait « j'ai raison et c'est fini ». Non. Moi, je pense que j'ai raison, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'existe, je pense comme je pense, je travaille sur les sujets qui m'intéressent, et il y a d'autres personnes qui pensent différemment. Et on est tous là. Personne ne va partir. Donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Et qu'est-ce qu'il faut qu'on parvienne à faire ensemble? Mais personne ne va partir. Donc il faut qu'on puisse s'écouter. Mais je pense que même dans cette écoute, quand on est dans ce qu'on appelle le mainstream, ou quand on est dans tout ce qui est, je sais pas, perçu comme normal, classique, c'est l'ensemble de la France qui y a accès. Tout le monde a été à l'école. Tout le monde a un socle de culture, commun. Un socle commun de culture. Après, il y a d'autres personnes qui ont également étudié d'autres choses. Mais c'est ces personnes-là qui connaissent plus de choses. La culture classique, j'ai envie de dire, nous, on la connaît. On la connaît. On la comprend. On peut la déchiffrer, l'analyser, la chérir ou la rejeter. Il y a plein d'autres choses que j'ai l'impression de connaître et qui ne sont absolument pas connues par les autres. Donc, où est le déficit de connaissance? Moi, des langues réelles et symboliques, j'en parle plusieurs. Donc des langues sociales, des codes, je sais pas moi, des façons d'être différents. Enfin, voilà, j'en connais plusieurs. Il y en a qui n'en connaissent qu'un seul. Et c'est ce seul qui devrait compter. Et ça, c'est pas possible. Enfin, c'est de moins en moins possible. Parce que tout ce qui s'est déroulé en vérité, premièrement, dans ces territoires qu'on appelait les territoires d'outre-mer, et qui ensuite, après, s'est déployé au sein de la France hexagonale dans les territoires périphériques, voilà, font qu'on se rapproche, en tout cas, la périphérie, quelle qu'elle soit, se rapproche de plus en plus du centre. Et le centre ne peut plus ignorer ses périphéries. Il ne peut plus. C'est plus possible, c'est plus tenable. On ne va pas se cacher derrière la question de l'immigration quand la question qui est posée est celle de la citoyenneté. On ne va pas se cacher derrière la question de la xénophobie, qui est littéralement la haine de l'étranger, lorsque les personnes que nous haïssons ne sont pas des étrangers. Ils ne sont pas des étrangers. La plupart du temps, ne sont pas des étrangers. Voilà. Donc, à un moment, il va falloir pouvoir parler honnêtement, sans masque. C'est difficile en ce moment, mais on n'y est pas. Voilà. Et peut-être rationnellement, parce que ce sont des questions et des thématiques qui nous affectent tous et toutes. À partir du moment où on est tous bloqués là, en fait. On est là, hein. Tout le monde est là. Alors qu'est-ce qu'on va faire les uns des autres?
Irène,
moi je voulais juste dire que j'avais beaucoup aimé votre livre.
Merci.
Justement avec ce mélange de données scientifiques, théoriques, solides, et en même temps votre implication personnelle. Mm-hmm. Alors j'ai complètement halluciné quand votre directrice de thèse vous déboute avec des arguments complètement fous, plus la scène du plateau télé, alors là c'est encore plus hallucinant. Mais alors, j'ai deux questions. Effectivement, on est tous là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut faire blanc, noir, jaune, etc. Pour surmonter ce racisme et installer vraiment une citoyenneté, là, du coup, pas universaliste, mais universelle et mondiale. Ça, c'est une première question. Et deuxième question, page 52-53, vous citez Hartmann. Alors, je suis désolée, j'ai pas fait toutes les recherches que j'aurais pu faire, mais bon.
Vous n'avez pas fait vos devoirs.
Vous allez faire Irène, attention.
Où il explique la différence. À chaque étape de la vie, les Noirs courent deux fois plus de risques de mourir que les Blancs, dans la ville où je réside, etc. Où je résiste aussi. Bon, bref. Est-ce qu'il y a la même chose, des données pareilles pour la France?
Alors ça, je vais commencer par la deuxième question. Oui. Donc c'est Dia Hartmann, c'est une femme, c'est une femme, et elle est. Ces données-là sont très répandues aux États-Unis. Enfin, je veux dire, sont collectées, je veux dire, par le biais du recensement régulièrement. De la France, on regarde les États-Unis, dont on se dit qu'on les connaît bien depuis si longtemps. Moi, je ne suis pas persuadée qu'on les connaît bien, mais en tout cas, on en parle tout le temps. Et on décrit souvent ces États-Unis comme un pays de communauté et un pays de communautarisme. Les États-Unis sont un pays de communauté, mais ça, c'est rien de le dire, c'est juste un fait historique. Plusieurs communautés ont migré vers ce territoire qui plus tard est devenu les États-Unis et ont fondé les États, des États individuels sur un ensemble de valeurs qui étaient spécifiques. C'est-à-dire que quand on parle du communautarisme des États-Unis, on n'est pas en train de parler des puritains qui sont arrivés en 1620 et qui ont essayé de fonder des théocraties en Nouvelle-Angleterre. On pourrait très bien parler de la Virginie, la première colonie pérenne dans ce territoire qui allait devenir les États-Unis en 1607, qui était une entreprise. Je veux dire, la Virginie, la colonie a été financée par un conglomérat d'entreprises britanniques qui ont investi dans l'exploitation de ressources naturelles. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, vous pouvez prendre la communauté africaine-américaine qui est principalement descendante d'esclaves, même s'il y a toujours eu parmi eux 10% de noirs libres qui ont été libres, je veux dire, du départ jusqu'à l'abolition de l'esclavage. Bon, est-ce qu'on a le temps de parler des Amérindiens qui étaient là, de toute façon ? Voilà. Et ensuite, voilà, toutes les vagues d'immigration, les vagues de migration connues, les Irlandais, il y a plein de communautés. Et à chaque fois qu'on parle du communautarisme aux États-Unis, on parle toujours d'un certain communautarisme. On parle d'une minorité, des minorités, pas des communautés, des minorités. Et donc, les minorités sont les seules communautés qui dérangent, parce que la communauté des WASP ne dérange pas. Pourtant, c'est une communauté. Vous voyez ? Donc, tout ça pour dire que pour Hartmann, quand elle a accès à ces données statistiques, sociologiques, ben, elle n'a qu'à regarder le recensement, ce serait l'équivalent de l'INSEE, et voilà qui fonctionne, qui reconnaît l'existence de ces groupes ethniques, de ces groupes raciaux, de ces groupes sociaux, de ces identités liées au genre. Voilà, ça se fait et c'est assumé. En France hexagonale, ce n'est pas assumé. Et ça n'existerait pas puisque nous serions tous les mêmes, puisque nous sommes dans une république universaliste. Et donc la seule différence qui compterait en France serait celle qui opposerait les citoyens français aux étrangers. Ça compte. On peut dire il y a des étrangers, il y a des Français. Mais une fois qu'on a des Français, ça ne servirait à rien de savoir qui ils sont. Même si, évidemment, ça change, et même si ces données-là, même si elles ne sont pas pratiquées, alors même s'il y a des choses qui sont faites, on ne peut pas collecter des données avec les noms. Voilà, c'est ça. Mais il y a des gens, il y a des sociologues qui se sont intéressés à ça. Surtout, on pourrait se rappeler de plusieurs choses. Que premièrement, c'est quelque chose qui est plutôt récent dans l'histoire française hexagonale. Il y a eu des moments de l'histoire où on a collecté des informations ethniques, religieuses. On peut remonter à la Shoah, par exemple, et à la Deuxième Guerre mondiale. C'est un moment où des fichiers ont été constitués. Évidemment, ce n'était pas une bonne idée de le faire à ce moment-là, mais c'est ce qu'on a fait. Donc, ça a été possible. Et surtout, dans l'histoire coloniale, on sait exactement qui étaient, par exemple, les musulmans, les non-musulmans, qui étaient les personnes affiliées à telle ou telle ethnie. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'en France, on est si prompt à utiliser le terme ethnique plus que racial. On va souvent parler de dire oui, on va jamais dire il s'agit de race, mais par contre, on entend souvent des personnes parler d'ethnie. Mais moi, je mets quelqu'un au défi de savoir si je suis Djoula ou si je suis, Baoulé, ou si je... C'est pas ça la question. Je pense pas. Je ne pense pas que ça soit ça la question. Mais c'est ce que je me dis, c'est une intuition. Vous voyez ? Donc, c'est une question qui est posée, la question de la collecte des statistiques ethniques. Il y a déjà eu des études menées par des sociologues qui se sont appuyés sur les noms de famille, qui se sont appuyés sur les lieux de naissance, qui se sont appuyés sur les lieux de naissance des parents. Donc on est toujours en train de tourner autour du pot, parce que si vous appuyez sur les noms de naissance ou sur le nom des parents, qu'est-ce que vous faites des gens qui sont issus de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, par exemple? Qu'est-ce que vous faites d'eux? Comment vous allez... Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que c'est ça, c'est ce genre d'impossibilité qui révèle le silence qui pèse sur cette organisation qui est aussi raciale. Ça veut dire la France, enfin, elle est structurée de manière différente, mais en tout cas on ne pourra pas faire fi aussi longtemps continuer à faire fi depuis l'hexagone de la race. on pourra pas. Et ensuite, pour votre première question, qu'est-ce qu'on fait? Là, je ne sais pas. Moi, j'ai déjà fait le livre. C'était mon maximum. Non, en tout cas, si on en parle et qu'on en parle de manière honnête, ce qui ne veut pas dire que cela soit une démarche facile. Mais va falloir vraiment en parler de manière honnête et ouverte et informée et responsable. Mais en parler, je ne sais pas moi, l'écrire, le chanter, le jouer au théâtre, le montrer dans les films, enfin, voilà, que ça devienne des sujets communs et des sujets qui ont un accès égal et équitable à l'espace public. À l'espace public. C'est ça, quand je dis par exemple, si vous faites un film et que vous traitez d'un certain sujet, est-ce que vous allez avoir ou ne pas avoir accès aux subventions du CNC? Voilà. Est-ce que si vous parlez un certain épisode de l'histoire, est-ce que cet épisode de l'histoire, il va intégrer les programmes scolaires et donc être disséminé à travers l'ensemble du pays? C'est ça la question. Est-ce que si vous avez un profil professionnel qui apparaît de telle ou telle manière, est-ce que vous allez être une personne désirable professionnellement? Est-ce qu'on va vous donner un boulot et un boulot bien payé, ou est-ce que vous n'aurez pas de boulot, ou simplement un boulot mal payé, ou des invitations éternelles et infinies à faire du bénévolat parce que votre savoir ne vaut rien? C'est ça tes questions.
Qu'est-ce que vous pensez de cet effort qui est visible, je trouve, dans les médias, par exemple à la télévision, dans la publicité? On voit de plus en plus de personnes noires, par exemple sur les plateaux de télévision, des noirs qui sont maintenant présentateurs. Dans la publicité, maintenant systématiquement, il y a toutes les couleurs de peau. Vous pensez que c'est... c'est une avancée?
Moi, je dirais que c'est pas, même dans la publicité, c'est pas systématique, mais bien sûr qu'il y a des avancées. C'est pas systématique, mais bien sûr qu'il y a des avancées. Mais pour moi, il y a tellement de choses à faire que bien sûr que c'est bien, mais il faut que ça continue et que ça continue plus fort et plus vite et plus profondément et plus structurellement. Ça ne peut pas être des pincées de personnes comme ça. Ça, c'est des individus qu'on prend. C'est dans la structure, dans la profondeur. C'est là qu'on parle de d'institutions et de systèmes. Comment, je ne sais pas moi, comment, moi je ne suis pas une faiseuse, mais comment faire en sorte que nous ne soyons même plus au point de se dire « il y a des avancées, c'est normal ». Et justement, quand on a tous ces débats autour de l'universalisme, si on était vraiment universaliste, on ne serait pas en train de compter les avancées. On ne serait pas en train de remarquer. Alors, parce qu'on dit qu'on ne remarque pas les couleurs. Et maintenant, on va commencer à dire, oui, mais maintenant, il y a plus de noirs, par exemple, à la télé. Alors, avant, vous n'aviez pas remarqué qu'il y avait que des blancs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il va falloir ouvrir les yeux. Mais bien sûr que c'est bien. Mais honnêtement, c'est très, 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 très lent, parce que ça fait des siècles que ça dure.
Oui, mais c'est une question d'éducation et c'est dès le plus jeune âge qu'il faut...
Exactement, d'où la question systémique. Qu'est-ce qu'on enseigne? Comment on enseigne? Comment on forme les enseignants? Comment, par exemple, si...
Les parents aussi ont leur rôle.
Tout le monde a son rôle, mais les parents sont ancrés dans des sociétés précises. Les parents sont les reflets de la société au sein de laquelle ils évoluent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas seulement... Il y a la part du personnel et de l'individuel, et il y a la part du collectif, et il y a la part du pays, la part nationale. Elle compte aussi. Ça peut pas être, par exemple, un parent, deux parents, ou une famille contre la France entière. Elle va pas gagner. Elle peut, même si elle est... éclairée, gentille, aimante, elle va pas gagner. Elle peut pas. Elle ne pourra pas. Ouais. Donc, je sais pas. En tout cas, en parler, ne serait-ce qu'en parler, c'est déjà ça. Mais en parler calmement, ouvertement, et accepter la difficulté de la conversation. Parce que ça ne peut pas être des conversations... je veux dire, où tout le monde se sent à l'aise, les gens vont se poser des questions, se crispent. Des personnes vont dire, oui, mais moi je suis blanc, mais moi j'ai rien fait, mais moi c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Et donc il y a ces réactions individuelles qui stoppent la conversation. Maintenant, la question de la blanchité, c'est une question parmi d'autres. Il va falloir sortir de, on va dire, de l'ego individuel. Et ça, c'est, moi, je comprends que ça soit difficile. Mais en tout cas, c'est nécessaire. Et maintenir le confort individuel ne peut pas se faire au prix des avancées collectives que nous visons, si nous visons réellement l'universalisme. Pardon, je commence à... Vous voyez, mais bien sûr que c'est difficile. Les gens n'ont, c'est difficile de se remettre en question. C'est difficile de se remettre en question. C'est peut-être plus, je sais pas, quand on est en marge, il y a peut-être plusieurs possibilités. Soit on adopte une stratégie de déni et d'aliénation pour faire face à la violence du système. Donc tout a un sens. Si je suis en marge, si je suis pauvre, si je suis discriminée, si il m'arrive, c'est normal parce que voilà, c'est une façon de gérer une situation difficile, que ce soit le déni ou l'aliénation. Mais une autre possibilité, c'est de se dire, justement parce que je suis à l'extérieur, justement parce que je peux me permettre un pas de côté, j'arrive à voir clairement les rouages d'un système. De la même façon, si vous êtes en position privilégiée, si vous ne faites pas partie de la marge, vous pouvez aussi vous laisser aller et vous, on va dire, lover dans la légitimité de votre position. Ben oui, je sais pas, j'ai de l'argent, j'ai un travail, j'ai des diplômes, c'est normal, j'ai bien travaillé, j'ai rien fait, c'est moi, et je me pose pas de questions. Et de la même façon, vous pouvez très bien être en position de privilégié et vous dire quand même, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas.
Personne n'est libre tant que d'autres sont opprimés, comme disait Lord.
En tout cas, je pense que ce n'est pas possible. Enfin, on va être, les personnes seront libres à un moment. Mais ce moment, il est limité dans le temps, puisque les personnes non libres seront toujours à la recherche de leur liberté. Donc il y aura des frictions, il y aura des explosions petites ou grandes, il y aura des heurts, il y aura quelque chose. Donc la question pourrait aussi être la liberté pour chacun, et pas la liberté sur le dos d'eux ou en dépit d'eux, ou la liberté justement garantie par l'exclusion d'autres ou l'oppression, la domination d'autres. Ça pourrait être la liberté pour tout le monde. Ça voudrait dire évidemment envisager un monde et des sociétés différentes, mais pourquoi pas, puisque même le monde dans lequel nous évoluons aujourd'hui, il a été pensé, il a été rêvé, il a été mis en place. Bon, ben, on peut penser et mettre en place d'autres choses, je pense.
Est-ce qu'il y a des questions?
On a encore une petite demi-heure. Ok. Excusez-moi, je suis presque désolée de vous poser cette question, mais on a prononcé plusieurs mots en isme depuis tout à l'heure, et il y en a un autre en ce moment qui arrive beaucoup dans le débat public et qui n'est pas forcément utilisé avec un sens passionnant, et c'est le mot séparatisme. C'est quoi, vous, votre regard sur ce mot et sur la manière dont il est utilisé en France politiquement depuis longtemps? Différemment, mais avec une sorte de continuité aussi. Voilà.
C'est quoi
votre regard là-dessus?
Alors, ça, vraiment, personnellement, pour moi, c'est les mots et les controverses. Ensuite, il y aura bientôt la matérialité d'une loi si elle est votée, qui va rendre les choses beaucoup plus concrètes, mais c'est de la perte de temps, c'est de l'illusion, c'est de la division, pour le coup. Et la question du séparatisme telle qu'elle est formulée actuellement autour de la question de pas seulement du djihadisme, mais de l'islam, de l'islam, c'est très très vraiment, ça démontre une compréhension et une approche des questions on va dire sociétales qui nous agitent actuellement, qui est je sais pas, pitoyable, et qui ne nous laisse pas imaginer des lendemains heureux. Avec la question du séparatisme, la façon dont elle est présentée par le gouvernement et la façon dont elle est articulée, alors qu'on est en plein procès des attaques de 2015, elle est structurée autour de la question, pas seulement du djihadisme, mais de l'islam. Mais les événements...
Donc,
bien sûr, et des musulmans et des musulmanes. Et qui, donc, en tout cas, les événements publics, les traumatismes publics, ils sont liés à cette question du djihadisme et de l'islam, et de cette équation, cette équivalence entre le djihadisme et l'islam. Mais quand on regarde ces événements, donc toutes les attaques qui ont eu lieu, notamment les dernières en 2015, pour moi, on part du principe qu'il n'y a que des non-musulmans qui sont morts. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Donc, cette attaque contre cet art de vivre à la française, cette citoyenneté française, elle est vraiment définie en creux, elle est définie de manière subtile en termes raciaux. Qui dit ou qui peut prouver que, par exemple, des musulmans ne sont pas morts lors des attaques de 2015, que ce soit du mois de janvier ou que ce soit plus tard au mois de novembre? Donc, qu'est-ce que ça veut dire de formuler la question de cette sorte? Comme si nous n'étions pas tous morts ensemble lors de ces attaques. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'est-ce que c'est que cette demande de mise au pas, cette demande de garde à vous qui est imposée donc à des personnes, à des croyants, à des gens qui se déclarent et qui se pensent comme musulmans, qui sont perçus comme musulmans, parce qu'en vérité en France, quand on parle de l'islam, on parle des arabes la plupart du temps. Après, parce que moi je suis musulmane et personne ne m'a jamais parlé d'islam. Je me suis déjà retrouvée sur un plateau télé où on parlait de l'islam et le présentateur a dit « on a cherché un musulman, on n'en a pas trouvé ». Parce que comme je suis noire, c'est une autre catégorie. Et donc toutes ces catégories... Oui, on nous montre bien qu'elles marchent de manière arbitraire et elles marchent de manière, enfin, complète. Elles sont toutes mutuellement exclusives et il n'y a jamais de place pour la complexité. Il n'y a jamais de place. Donc, un musulman, c'est ça. Un musulman en plus, c'est potentiellement un djihadiste. Et c'est comme ça. Et on n'arrive pas à penser. On n'arrive pas à penser. Alors que l'une des questions très très importantes, c'est comment on va faire pour vivre en sécurité. La question de la sécurité publique, c'est la même pour tout le monde. Mais comment, je ne sais pas de quelle façon vont être menées les enquêtes pour, remonter les filières pour prévenir ce genre d'attaques. Qu'est-ce qui fait que ces attaques ont lieu et comment on va faire pour s'en prémunir? En déclarant que tous les musulmans sont potentiellement des djihadistes et donc en contrôlant tous les musulmans, en restreignant leur liberté et un certain type de musulmans.
Est-ce que vous n'allez pas trop loin en affirmant que... on affirme que tous les musulmans sont des potentiels djihadistes. Je crois que là, vous êtes un peu expert.
Mais quand, dans le séparatisme, quand la loi sur le séparatisme, elle parle de quoi? Elle parle d'une religion, elle n'en parle pas d'autre.
Non, mais elle parle d'un islam dévoyé.
Bien sûr.
Elle ne parle pas d'un islam,
Le fait d'en parler comme ça, les amalgames sont faits. Non mais les, je sais pas comment.
Dans les années 50, la police française contrôlait les Arabes au motif de séparatisme nord-africain, notamment les Algériens. Donc en fait, c'est un.
Ouais, comment on fait pour s'en sortir? Une fois qu'on a lancé ces grandes catégories. Comment on fait pour distinguer un musulman d'un djihadiste? Et au nom de la sécurité nationale, hein, et qui est réelle, au nom de la sécurité nationale, à quoi est-on prêt? Jusqu'où peut-on se permettre d'aller? On va dire, on va contrôler des gens. Assigner des gens à l'état d'urgence, c'est ce qu'il a fait. Assigner des gens à résidence parce qu'on les soupçonne d'eux et que ce soit vrai ou faux, ça valait la peine parce qu'on a vécu ces attaques. Ça, ce genre d'argument, il n'est tenable que si on n'est pas concerné. Que si on n'est pas concerné. Il n'y a qu'une personne qui n'est pas concernée qui peut se dire ça vaut la peine de contrôler tous les musulmans, parce que parmi ces musulmans, on va en trouver un ou deux qui sera djihadiste. C'est pas possible. Ce n'est pas acceptable. Et les dérives qui ont déjà eu lieu pendant l'état d'urgence, justement, les personnes musulmanes, elles peuvent en témoigner et en ont témoigné.
Il y a une recrudescence d'agression de femmes voilées suite aux attentats de 2015. Les agressions montent en flèche, hein, à 2015.
Et c'est ça, ce qui est dangereux, c'est justement c'est jeter, c'est créer, jeter en pâture ces grandes catégories. Qu'est-ce que ça veut dire être un musulman ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand les gens me regardent, ils ne me perçoivent pas comme musulmane.
Donc
comment ?
Déjà
non. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais donc ça veut dire quoi de notre rapport aux gens et notre rapport au corps et notre rapport aux apparences ?
Tu veux dire quelque chose, Catherine ?
Oui, moi je voulais dire, excusez-moi, je vais le dire comme je le repère, puisque je fréquente même pas mal d'Africains, et je veux dire, ce que j'écoute moi, c'est le prénom et le nom. Ça me donne, je dirais, si c'est Catherine, je sais qu'elle est catholique. Si elle est Mémouna, je sais qu'elle est plus potentiellement musulmane de religion.
Ouais.
Et puis après, il y a le nom de famille, et là, le nom de famille, selon moi, je ne connais pas beaucoup la Côte d'Ivoire, même au Sénégal, je situe géographiquement.
Vous savez que pendant les attaques, alors c'était au moment de 2015, il y avait donc l'un des terroristes, c'était Hamedi Coulibaly, dont la famille est originaire, j'ai pas envie de, peut-être du Mali, mais je ne suis pas sûre. Oui, du Mali. Vous savez combien de Coulibaly en France ont été appelés par la police ? Et donc là, pour moi, ça pose une question. Au départ, ça peut être drôle, mais en fait, c'est très intéressant et ça nous mène à réfléchir à même, comment dire, à la façon même de mener les enquêtes et de garantir notre sécurité. Parce que moi, des Coulibaly, j'en ai dans ma famille. Et comment dire, des Coulibaly, il n'y en a pas que au Mali. c'est comme, je ne sais pas, voilà, sous Moro, c'est pas seulement la Côte d'Ivoire. C'est comme si vous appeliez Dupont. Donc je me dis que si même dans les services de police qui préparent, enfin, ou qui essayent de nous prémunir de futures attaques, les enquêtes sont menées de cette façon, ben, on va tous mourir encore. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc au départ, c'est une question qui peut paraître toute bête, anodine. On va attraper tous les Coulibaly, mais ça ne va pas penser comme ça. Parce que vous ne connaissez pas...
On fait du riz pour les nourrir.
mais je veux dire, c'est incroyable. On ne peut pas... Je veux dire, ça, c'est une... Enfin, Coulibaly, c'est juste ne pas connaître l'Afrique de l'Ouest. Mais maintenant, on ne peut pas se permettre de ne pas connaître l'Afrique de l'Ouest parce que ça nous coûte quelque chose. On pourra pas faire autrement.
Mais la façon dont on a fait la décolonisation et comment on a coupé les territoires, on n'a pas du tout fait attention.
Mais ce n'était pas le but de faire attention.
Voilà. D'ailleurs, tu vois, il y a une question qui ne va peut-être pas être trop mal sur la télé par rapport à la décolonisation.
D'accord. Moi, ce qui m'intéresserait de voir, c'est des émissions sur la colonisation. Mais bon, avant, comme disait madame, il y a quand même des avances. Avant, il n'y avait même pas d'émissions sur la décolonisation. Et maintenant qu'on a accepté qu'il y a une décolonisation, on pourrait peut-être s'interroger sur la colonisation. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Comment ?
Il y en a eu sur Arte.
Il y en a eu sur Arte ? Partout dans le monde ?
C'était assez étonnant.
D'accord.
C'était pas mal fait. Bon, ça aurait demandé peut-être plusieurs...
C'est ça la question. Je pense qu'il il en faut, je ne sais pas, des centaines de documentaires. Enfin, il en faut comme d'autres... C'est tout, parce que...
Il y a envie d'aller chercher plus loin.
Exactement. C'est déjà bien. On va prendre tous les pas de fourmis et tout ça. Moi, je ne rechigne sur rien. Je considère juste que ce sont des pas de fourmis.
C'est une... Votre livre... se conclut, bon, enfin, s'achève parce qu'on sent qu'il appelle à une suite, parce qu'il se conclut par une question. Mais juste avant, il y a une phrase qui arrive de manière très très forte et qui vous dites plusieurs fois d'ailleurs, je décide d'être noir. Voilà. Donc on sent que c'est le bout de ce parcours. Et à la fin, cette question que vous posez, c'est que ne se passe-t-il pas, je ne sais plus exactement comment elle est formulée, mais que se passe-t-il dans l'Hexagone, mais surtout que ne se passe-t-il toujours pas. Et dans la question, et pour revenir aussi sur ce que disait Isabelle, ce que tu disais sur le... On sent qu'il y a un frémissement, je ne sais pas comment vous percevez ça, mais on sent qu'il y a un frémissement, que ces questions arrivent, et qu'il y a toujours un mouvement de reflux derrière extrêmement violent. C'est-à-dire que, et les personnes antiracistes, et les personnes qui combattent le racisme, passent pour les racistes, et les personnes qui combattent l'homophobie passent pour les homophobes, et les femmes notamment qui combattent le sexisme passent pour les sexistes. c'est des retournements d'une violence à chaque fois incroyable. Et je voulais peut-être aussi vous demander, avec l'expérience que vous avez, pourquoi c'est si dur? Pourquoi c'est si lent? Est-ce que finalement, ça n'a pas trait à la violence, le fond de violence que vous décrivez, que vous restituez dans cette notion de diaspora que vous construisez? Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas aussi affaire à un tel fond de violence que nous avons fait subir, etc., qui a été subi, qui rend difficile cette prise de conscience?
Bien sûr que ça rend difficile, mais en tout cas, chaque avancée est, on va dire, déclenchée par des, comment dire, des épisodes antérieurs, en fait. Donc ce frémissement aujourd'hui que vous sentez et que je partage, enfin je partage cette analyse, si aujourd'hui par exemple on a parlé du comité, on parle du comité justice pour Adama Traoré, voilà, en se disant qu'il y a un comité qui est sorti de nulle part et voilà, 2020, Assa Traoré, icône, partout, un visage, un nom, mais Adama Traoré, il est mort en 2016, il n'est pas mort en 2020, et le comité Adama Traoré, il est fondé depuis 2016. Et il organise des marches annuelles depuis 2016, en fait. Donc, quand pour certains, l'histoire commence en 2020, ben pour d'autres, elle commence en 2016. Et ça, c'est juste le comité Adama Traoré, qui n'est pas le seul comité qui se bat pour, contre les violences policières. Donc, avant Adama Traoré, il y a d'autres familles, d'autres collectifs, notamment des sœurs dernièrement, depuis les années fin 2000 et 2010, beaucoup de sœurs, de personnes qui sont mortes aux mains de la police ou de la gendarmerie. Donc, ces précédents, même s'ils sont, ils deviennent invisibles, même s'ils sont oubliés, ils existent. Et c'est eux qui donnent une... on va dire qu'ils produisent Assa Traoré aujourd'hui. Donc en fait, malheureusement, évidemment, le système est violent, enfin ça c'est la base, le fondement, et qu'il y a toujours, je ne sais pas ce qu'on sait, c'est que les systèmes de domination sont indissociables des stratégies de résistance. Il n'y a jamais de domination totale. Il y a toujours des tentatives de domination totale, mais comme on parle d'êtres humains, les êtres humains sont extrêmement créatifs et ont une pulsion de vie très forte qui va faire que les stratégies de résistance, directes ou indirectes, on aime bien penser à des révolutions, des luttes armées. Non, les êtres humains vont juste dire voilà, il m'arrive ceci, qu'est-ce que je vais faire pour manger du pain ce soir, qu'est-ce que je vais faire pour sortir alors qu'il y a un couvre-feu. Voilà, ça peut être aussi ce qu'on appelle la résistance quotidienne, les petits gestes. Oui. Donc pour tout système de domination, vous aurez des stratégies de résistance qui, à un moment donné, selon le rapport de force, selon la configuration nationale, mondiale, enfin internationale, vont donner lieu à des avancées. Et chaque avancée aura à faire face à un retour de bâton, bien sûr, mais pourra quand même grappiller des petits points de manière à ce que la génération qui suit, apporte sa pierre et sa pierre et sa pierre. Donc c'est très très long, mais c'est constamment, vous avez raison, chaque avancée est contestée. Sinon on ne serait pas dans le même monde en fait, on serait sur, ça serait le paradis sur Terre. C'est une lutte politique, c'est vraiment une lutte de pouvoir, et il faut savoir que la société, notre société, telle qu'elle existe, elle bénéficie à certains qui n'ont aucun intérêt à ce qu'elle évolue, quelle que soit la raison, que ce soit la question, je ne sais pas, de l'orientation sexuelle, du genre, de la classe, du valide, ce que vous voulez, de la race, tout, il n'y a aucun intérêt à ce que ça change pour certains. Et les seules personnes qui ont le plus grand intérêt à ce que ça change, c'est les personnes qui sont le plus marginalisées ou le plus exclues de ces sociétés. Donc c'est une lutte. C'est une lutte. On se dirait, je ne sais pas, une... Peut-être une question qui stresse moins les gens. Oui, ils peuvent un peu écouter, pas vous accuser de ceci ou de cela. C'est la question du handicap et du validisme. On peut très bien se dire, tout va bien, et les personnes qui sont en situation du handicap, quel que soit le type, mais là je pense vraiment à des questions de mobilité, les personnes qui se disent qu'il n'y a pas d'urgence, qu'il faut être patient, qu'on va réfléchir, c'est des personnes qui arrivent à bouger. Donc les personnes qui arrivent à bouger, elles ont le temps, elles ont le confort, elles ont le choix de penser ou de ne pas penser à ces questions. Et surtout, elles n'arrivent même plus à percevoir à quel point la société est structurée autour de leur validisme. Mmh. Elles ne le voient pas. C'est normal d'avoir des escaliers. Bon, des fois, il n'y a pas d'ascenseur, oh, je suis fatiguée, mais bon, il y a des escaliers, ça monte, ça descend, je prends mon tramway, je prends mon train, je conduis, il n'y a pas de problème. Ben, ça veut dire que notre société, elle est pensée structurellement, profondément, systémiquement, pour des gens en pleine capacité de leur mobilité. Ça, c'est un point. Ça, souvent, ça détend. Les gens, quand je dis ça, les gens se disent, ouais, c'est audible. Bon, après, vous pouvez prendre n'importe quelle des catégories que j'ai nommées aujourd'hui et vous allez voir, c'est le même principe. Quand les gens, par exemple, en ce moment, on a beaucoup parlé de la question du privilège blanc, et c'est, c'est pas possible. Ben, en fait, le plus grand des privilèges de la blanchité, c'est l'invisibilité. C'est-à-dire que tout est tellement blanc qu'on voit même plus que c'est blanc et on n'a plus à dire que c'est blanc. C'est juste normal. Ce qui fait que, par exemple, vous allez chez le coiffeur. Je prends des exemples vraiment d'une grande banalité, voilà, pour que ça soit plus gérable. Vous allez chez un coiffeur et vous n'avez pas des cheveux de blanche. Qu'est-ce qui se passe? Et les coiffeurs ou qui ne traitent pas des cheveux de blanche sont beaucoup plus nombreux que des coiffeurs qui sont capables de s'occuper des cheveux de non-blancs. Ça veut dire quoi? Que dans la coiffure, le cheveu qui est envisagé à la base, à la structure, c'est le cheveu blanc.
En Afrique, c'est l'inverse.
Oui, en Afrique, c'est l'inverse. Sauf que moi, je ne vis pas en Afrique. Donc, ma conversation...
Je suis allée chez le coiffeur en Afrique.
D'accord.
Et vous avez... Je suis arrivée avec une paire de ciseaux comme ça.
Et vous êtes dit...
Je me suis dit, mais comment elle va faire sur mes petits cheveux?
Et vous êtes fait coiffer quand même?
Et on a...
Vous avez pu vous coiffer quand même?
Oui, mais elle a eu beaucoup de mal. Il a fallu que je change.
Oui, mais ça vous aussi, par exemple, pour les tailles de vêtements. Et des magasins.
Exactement.
Que la taille 40.
Exactement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire?
Et ça existe pour plein de choses.
Eh bien, bien sûr, mais ça ne veut pas dire que c'est acceptable. Voilà, mais c'est pour ça que je choisis. Vous avez raison. Donc, si par exemple, vous prenez cet exemple, ce qui nous amène à la mode. Ce qui nous amène, au début, ça peut paraître, je ne sais pas moi, futile, superficiel, mais ce qui nous amène à une question beaucoup plus profonde, qui est celle qui est esthétique. Qu'est-ce que c'est que la beauté? Et qui a accès à la beauté?
C'est vrai que les médias nous imposent un modèle de beauté.
Exactement. Donc vous faites du 40, est-ce que vous êtes une belle femme ou une femme en surpoids? Est-ce que si vous faites du 40 ou au-delà, est-ce que vous méritez d'être célébrée publiquement pour votre beauté ou non? Est-ce que la beauté dans la construction du genre qu'on a, dans la construction de la femme, est-ce que la beauté c'est important ou c'est pas important? C'est ça les questions. Et ce que je veux dire, c'est qu'au départ, on parle de faits qui sont vraiment anodins presque, mais qui sont très sérieux, qui sont très profonds. Et après les gens vont dire, oui mais vous allez trop loin. Un exemple, les tissus de couleur cher. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est couleur chère. Une fois, j'ai acheté, ça m'est arrivé, j'achète quelque chose, enfin voilà, et je dis, je parle à des amis, là je fais vraiment, c'est de l'anecdote, on n'est plus dans les concepts, et je dis, je me suis acheté, cette tenue, et c'est couleur chère. Et mes amis, ils explosent de rire. Elles me disent, mais t'es folle ou quoi? T'es daltonienne, enfin. J'ai ces couleurs ma chair. Ma chair à moi. Alors peut-être que vous n'avez pas remarqué qu'on n'avait pas la même chair. Donc c'est tout par de là, on n'est pas rendu à où vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc quand, après les gens vont dire, oui, bon, bah alors maintenant, on va parler de la question, enfin de la terminologie, chair, pas chair. Oh non, mais là vous faites des histoires vraiment, si on en est à parler des sparadraps pour des noirs et des sparadraps pour des blancs, on s'en sort plus. Bah non, on s'en sort plus, mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a des fois, il y a des controverses où je me dis, mais les gens sont, allez, juste méchants. Enfin, je veux dire, c'est de la méchanceté, ça pourrait ne rien vous coûter. Et justement, si vous accrochez même à ces petites choses, eh ben, qu'est-ce que ça masque? Pourquoi ces colères, ces controverses récurrentes, surtout cette imposition constante du silence, pour moi, c'est ça qui révèle les enjeux. Qu'est-ce qu'on en aurait à faire? Qu'est-ce que ça change de dire cher ou pas cher? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce si important de dire normal, de ne pas dire blanc, de dire moi je suis un coiffeur parce que j'ai pas fini avec mes histoires de coiffeur? Vous savez que pour la formation des coiffeurs, vous êtes formé sur un seul type de cheveux. C'est-à-dire que vous avez des salons de coiffure pour cheveux autres qui ne peuvent pas s'appeler coiffeurs parce qu'ils n'ont pas le diplôme ou qui doivent passer le diplôme même si ils ne sont pas formés sur le cheveu qu'ils vont coiffer plus tard. Ça, c'est structurel. Et qu'est-ce qu'on et donc qu'est-ce qui apparaît derrière le fait de s'accrocher derrière s'accrocher à ce diplôme, à cette certification? Ben, c'est peut-être la gestion du nombre de coiffeurs. C'est peut-être la gestion économique d'une profession. Est-ce qu'on va partager? Vous voyez ce que je veux dire? En attendant, les coiffeuses et les coiffeurs qui savent s'occuper d'un plus grand nombre de types de cheveux, ben, en vérité, sont plus compétents que les autres. Ils sont plus compétents que les autres qui ne coiffent qu'un seul type de cheveux. Mais est-ce qu'ils sont systématiquement valorisés pour leurs compétences plus nombreuses? Non. Non. Donc il y a des gens, actuellement, je connais des coiffeurs et des coiffeuses qui se battent pour faire inclure le cheveu afro dans la formation des coiffeurs. Et ça, c'est une bataille. Donc des batailles, il y en a plein. Enfin, il y en a, donc les gens se disent, mais vous voyez le racisme partout? Parce qu'il est partout. C'est aussi simple que ça et c'est pas... C'est comme ça, c'est pas juste une accusation, c'est très commun, c'est très banal le racisme. Au début de la discussion, j'avais parlé de la façon dont on définissait le racisme. Et pour moi, cette façon-là, elle est problématique. Même les définitions sont fausses, donc on s'engage dans des débats qui n'ont pas de sens. Le racisme, c'est très commun et c'est pas propre à la France, c'est propre à beaucoup de pays.
C'est propre à l'humain.
C'est propre à l'humain, c'est propre à l'Occident. Et c'est en tout cas tel qu'il fonctionne aujourd'hui, il est daté historiquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend pour acquises certaines identités, certaines catégories, alors que l'histoire nous a montré qu'à travers les temps, les gens ne se sont pas toujours définis comme blancs ou comme noirs. Il y a eu plein de façons de se définir par le lieu de naissance, par la religion, par l'ethnie, par l'entité politique, l'affiliation à tel ou tel empire, par le statut social, enfin il y a plein de choses, par le régime alimentaire, il y a eu plein de choses. À un moment, quand on a dit noir et blanc, ce moment-là, il est, décelable, il est datable dans l'histoire. Et c'est dans cette séquence-là qu'on se trouve.
S'il vous plaît.
Oui.
J'ai vécu un moment en Côte d'Ivoire.
Oui.
Et à un moment donné, on allait dans une pharmacie, mon gamin était malade, je rentrais dans une pharmacie, il n'y avait que des personnes de couleur, moi. Et en fait, j'étais seul blanc. Et j'étais choqué, parce que la personne, la pharmacienne, m'a appelé pour me servir en premier.
Ouais.
Et que pensez-vous de ça, je trouve?
Ben oui, ça c'est
vous
ça.
Étiez où?
En Côte d'Ivoire.
En Côte d'Ivoire.
Ouais. Parce que vous avez été perçu par cette personne comme une personne de plus grande valeur. Mais c'est de ça dont on parle. C'est les effets immatériels de cette histoire et de ces cultures, bien sûr. Moi, pour vous donner une autre anecdote, la première fois que je me suis rendue au Sénégal, je me suis retrouvée dans un vol où il n'y avait que des blancs qui allaient en vacances, des touristes, des trucs de club. Et je pense que j'étais la seule noire de l'avion. Et quand je suis arrivée à l'aéroport, l'un des douaniers m'a appelé moi pour me faire passer en premier. Et je me suis dit, j'adore le Sénégal. Mais ça, c'est rare. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, lui aussi, il a voulu faire quelque chose. Et je dirais que c'est plutôt rare de bénéficier de choses quand on est noir que quand on est blanc. Ça, il va falloir l'accepter. Généralement, le privilège blanc, c'est réel. Le privilège noir, moi, je veux qu'on me le montre. Ça va, c'est par moment, mais ça étonne toujours. C'est pour ça que là, je parle d'une histoire, ça fait 20 ans le Sénégal, et je m'en rappelle encore. Ça veut dire que ça ne s'est pas passé souvent d'avoir un traitement de faveur, parce que j'étais noire, je vous garantis que ça...
Mais en fait, moi, je n'ai pas pris quoi. Un traitement
de faveur,
j'avais la honte.
Mais je sais bien. Mais c'est pour ça que je parlais tout à l'heure. C'est pas seulement vous. Je comprends très bien que vous n'ayez pas voulu ou initié le... La question, quand on parle de cette question du privilège, c'est que avec ce moment, avec cette désignation, vous avez le choix. Vous avez le choix. Vous pouvez dire, non, 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 moi je suis quelqu'un de très bien ou de juste. Là. Mais si vous disiez, bah tiens, justement, il y avait 15 personnes devant moi, et là, de toute façon, j'ai pas que ça à faire parce qu'il faut que j'aille à la plage. Bah oui, c'est ça la question. Vous avez le choix. Mais en tout cas, l'action, elle est déjà faite et elle ne dépendait pas de vous. Elle ne dépend pas de votre positionnement sur la question. Ça vous dépasse.
Ça se passe en Côte d'Ivoire. Ouais. Les Ivoiriens réagissent comme les Français en France, en fait. Donc, on va passer à appeler la personne noire pour la faire passer en premier, mais je veux dire par là qu'il y a une différence visuelle. De suite, on est remarqué.
Bien sûr, sauf que là, quand vous, c'est ça, on est dans des moments historiques différents. L'un des problèmes, l'une des choses qu'il va falloir assimiler en France aujourd'hui, c'est que par exemple, là, je noir, parce que moi j'ai parlé des noirs, mais on peut être français et noir. Et qu'est-ce qui se passe? Là, c'est pas une question, je suis dans un pays étranger, ou tout à l'heure j'embêtais madame en disant, moi je vis pas en Afrique. La question c'est qu'est-ce qui se passe ici? Quand vous dites les Français, ils réagissent comme ça, ça veut dire que vous voulez dire les Français blancs. Donc ça veut dire que pour être français, il faut être blanc. Alors que là, vous voyez ce que je veux dire, mais même sans s'en rendre compte, c'est ça la question. Mais dire les Français, quand les gens, j'aime bien écouter, quand les gens, il y a des fois on parle, mais toutes les couleurs, hein. Français, français, les Français ci, les Français ça. Et j'aime bien m'arrêter et dire, tu veux dire les blancs? Tu veux dire, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que si c'est en termes techniques, est-ce que quand on voit quelqu'un dans la rue, on peut savoir sa nationalité? Mais qu'est-ce pourquoi parfois on se dit qu'on peut savoir sa non-nationalité? Ça, c'est le corps. Ça, c'est le corps. On pourra me dire ce qu'on veut, hein. Mais ça, c'est le corps. Et le corps qui peut jouer des tours, des fois. Par exemple, vous pouvez être métissé, ou vous pouvez être... voilà, il y a des couleurs qui se voient moins. Enfin, on est pas, moi, je ne suis pas intéressée par la biologie. Je suis intéressée par la perception et la construction, les constructions de nos perceptions. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être français? Donc, dans ces cas-là, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de la question de l'utilisation de la xénophobie, par exemple le terme xénophobie, ou la question de l'ethnie. Non, ça, c'est tourné autour du pot. Là, vous parlez de race. Et après, quand je finis en disant « je suis noir », je dis « bon, je suis noir ». Comme ça, tout le monde est détendu. Moi, j'ai décidé que j'étais noir. Vous savez très bien que vous me voyez comme noir. On va arrêter de se mentir et peut-être qu'on va parler. Moi, j'ai compris que j'étais noir. Et en plus, je l'accepte et en plus, j'aime. Je ne suis pas seulement noire comme l'identité noire a été fabriquée dans l'histoire, c'est-à-dire une identité infériorisée. Maintenant, je me dis non, noir, ça a produit plein de choses. Et, enfin, voilà, je m'inscris et je choisis. Bon, ben maintenant, est-ce que les gens en face vont pouvoir aussi se parler honnêtement? Voilà, je dis je suis noire parce que j'en ai marre qu'on me dise oui, non, mais... oui, mais c'est parce que, en fait, non, mais parce que les immigrés font ça. Je ne suis pas immigrée. Oui, mais non, mais en fait, c'est parce que les Africains. Oui, je suis africaine aussi. Oui, mais parce que les Camerounais. Non, moi, je suis de la Côte d'Ivoire. Non, mais parce que, bon, je suis noire, c'est ça le problème. On en parle et on passe à autre chose. Et on passe à autre chose, mais on ne pourra pas passer à autre chose. Des gens qui vont vous dire, ah, mais écoute, avec elle, je ne m'entends pas du tout bien parce que, une fois c'est blanc, une fois c'est vert. Bon. Ça va. Donc dans les bons jours, ça fait rire. Et puis dans les mauvais jours, j'en ai marre. Il faut vous parler plus fort parce que mesdames vous entendent.
J'ai reçu pas mal de commentaires, de courriers, d'insultes, de choses comme ça.